Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
L'année Laudato Si voulue par le pape François pour mettre en route les catholiques à travers le monde vers ce changement de paradigme qu'il appelle de ses voeux a touché à sa fin le 26 mai dernier. Une année pour prendre conscience de ce qui se joue et de ce qui nous attend. À l'issue de cette année, on peut avoir l'impression d'avoir compris que nous roulions à grande vitesse sur l'autoroute mais sans frein et que tout cela risque de finir mal, de quoi avoir du mal à dormir. Il paraît même que certains finissent par développer des syndromes de troubles d'anxiété voire de déprime, on appelle cela la dépression verte. Alors pour nous aider à relever la tête et espérer envers et contre tout, cette dernière émission sur l'appel de Laudato Si, une promesse de vie. L'appel de Laudato Si, huitième émission de cette grande série annuelle, en espérant que les auditeurs ont été nombreux à pouvoir suivre cette série ou qu'ils ont pu picorer dans cette dernière au long de cette année. Fidèle au rendez-vous, autour de ce plateau, Jérôme Guay, religieux jésuite, co-auteur de cet ouvrage que l'on parcourt, Parcours spirituel pour une conversion écologique, paru aux éditions Vie chrétienne. Bonjour.
Bonjour.
Et avec nous aussi Bénédicte Lamoureux, religieuse Xavière, directrice des Coteaux Pays, ces centres jésuites dans le sud-ouest. Bonjour.
Bonjour.
Et nous rejoindra un petit peu plus tard Didier Prudon, qui est notre témoin du jour, qui est impliqué, on va dire, dans ces questions depuis longtemps, auteur d'un ouvrage lui aussi, mais que je citerai à la fin de l'émission pour ne pas perdre les auditeurs. Alors, comme à chaque fois, Jérôme Guay, j'ai tapé sur un moteur de recherche. Alors, cette fois, je ne sais plus ce que j'ai marqué, révolution écologique, je crois. Et puis, j'ai trouvé différentes choses. Mais ce sur quoi je voulais m'arrêter, c'est cet article du journal La Croix, la Une, en événement. Donc, c'était mardi 15 juin. Une étude d'un collectif de chercheurs, Quantité Critique, qui fait un portrait, en fait, de la génération climat. Alors, cette génération climat, deux choses, et je vous laisse réagir. À plus de 80%, elle considère que nous allons au-devant d'une catastrophe écologique majeure. Mais pour une grosse majorité, 57%, ils sont non pas climato-sceptiques, mais climato-distants ou indifférents, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas mis en route. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Bien, d'abord, on peut comprendre que les jeunes soient sensibles à un horizon qui s'annonce être bouché concernant l'évolution du climat sur la planète, et eux auront probablement à vivre les conséquences de ce qu'on fait aujourd'hui sur le climat. Donc on peut comprendre, et c'est tout à fait normal, et c'est heureux qu'ils aient cette compréhension-là, et que finalement très peu...
Ça vous surprend ? 80%, c'est quand même massif, c'est sûr. Hein.
Mais non, moi ça ne me surprend pas, parce qu'ils ont 15-20 ans aujourd'hui, ils ont pas mal d'années à vivre sur la Terre, et que quand on prédit qu'en 2050, il y aura quand même du grabuge sur le climat, bah, eux, ils sont en pleine force de l'âge, donc on peut comprendre qu'ils s'inquiètent.
Mais ils pourraient ne pas y croire. Ça serait possible.
Ah oui, oui. On commence, être sceptique, ça commence à être difficile aujourd'hui sur l'évolution du climat, parce qu'on commence à voir les méfaits du climat. On commence à comprendre qu'il y a une relation de cause d'effet à cause de la part des hommes sur l'impact sur le climat. Oui.
Alors je précise juste, donc ces 57%, c'est donc les soutiens distants, conscience écologique forte sans que celle-ci ait de traduction pratique, et puis les indifférents, mais qui sont moins nombreux dans ces 57%, faible attachement aux enjeux écologiques et absence de pratique individuelle ou collective.
Oui, alors là c'est tout l'enjeu, c'est-à-dire une fois qu'on a compris à peu près que quand même ça va pas très bien, ça suffit pas, parce qu'il faut maintenant arriver à croire que le geste que je vais poser va avoir une influence sur ce qui va arriver. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est tout un chemin d'éducation, de compréhension et de foi en l'action collective. C'est-à-dire, si moi je bouge, j'ai confiance que les autres vont bouger et que finalement, ça va provoquer quelque chose. Ça, c'est beaucoup plus difficile à acquérir. On peut très bien comprendre que la proportion des jeunes qui ont du mal à passer, à des actes concrets est beaucoup plus importante. C'est normal.
Voilà, c'est une étude à retrouver donc dans le journal La Croix. On peut parler aussi des modernistes. Alors les modernistes, ils ont la croyance que le système économique actuel en fait trouvera des solutions. Ils représentent 19% des jeunes sondés, 16-30 ans. Pour rappel, les éco-investis, eux, ils sont dedans jusqu'au cou, dans la transition écologique, j'entends. Alors, on va donc entrer dans le dernier chapitre de votre ouvrage, qui, pour rappel, pour ceux qui par hasard suivraient cette émission pour la première fois, votre ouvrage qui est en fait comme un conducteur, pour utiliser un mot de radio, pour une retraite. Si vous deviez nous introduire à ce dernier chapitre, Joie et espérance d'un monde renouvelé, et nous faire un petit récap de l'ensemble du mouvement, qu'est-ce que vous nous diriez ?
En fait, l'ensemble du mouvement consistait à entrer dans un désir de conversion quant à l'écologie, en commençant par l'émerveillement devant la nature, la recevoir comme don de Dieu, se situer devant Dieu à notre juste place dans la création, et puis considérer notre propre péché, comment on détruit cette nature, comment on participe à quelque chose qui ne va pas, et puis ensuite recevoir l'appel de Dieu à nous convertir. Voilà. L'appel à la suite du Christ, à entrer dans un autre mode de vie, de rapport avec la nature et à Dieu. Et une fois qu'on peut avoir décidé de se dire « bon, ben, je vais essayer d'avancer, je vais… » c'est pas tout, parce qu'il faut avoir la force de tenir. Et ça, c'est dans tout, je dirais, c'est dans tout chemin spirituel. C'est-à-dire, j'ai décidé de me convertir, j'ai pris une décision, mais après, il faut tenir. Et c'est là, je trouve, le génie d'Ignace dans les exercices spirituels, c'est qu'il nous fait contempler la passion et la résurrection du Christ. Alors aujourd'hui, c'est la résurrection.
Alors donc, il faut dire donc, que ce parcours est inspiré donc, des exercices
spirituels d'Ignace.
Fondateur des Jésuites.
Voilà. Et donc... Et il nous fait contempler ça. Et ça, je trouve ça assez génial parce que c'est cette contemplation qui va nous donner de la force à notre réponse à l'appel de Dieu. Voilà. C'est parce que je crois très profondément et que je fais cette expérience la plus intérieure possible de la passion et puis surtout de la résurrection du Christ que ça va me donner la force d'avancer, de mettre en œuvre ce pourquoi je me suis décidé.
Alors la résurrection, on commence par ça, vous commencez par ça dans votre chapitre, vous dites entre autres « Les pères de l'Église aimaient à souligner que la mort n'a pas trouvé de quoi se nourrir dans l'être du Christ et est morte de faim ». Mais quand on regarde du côté de la résurrection, j'ai trouvé un sondage publié par le journal Pèlerin qui date de 2009 qui laissait entendre que 1 Français sur 10 croyait en la résurrection, 1 Français sur 10 seulement, et que même chez les catholiques, à l'époque, en 2009, 13% déclarent croire en la résurrection, mais qu'une majorité, en fait, n'y croit pas, ou ne voit pas trop ce que c'est, font une confusion avec la réincarnation, imaginent qu'il y a quelque chose, ou voire même qu'il n'y a rien, et cette étude comparait ça à des chiffres de 1986 en disant que c'était en net recul. Est-ce que ça vous surprend? Et qu'est-ce que vous pourriez nous faire un peu comme pédagogie pour essayer de nous réexpliquer ce que c'est que la résurrection?
Alors, non, ça me surprend peut-être pas, parce qu'on est dans une société qui est très matérialiste. Donc, la résurrection, c'est vraiment, je dirais, central dans la foi chrétienne, mais c'est aussi quelque chose qui est très difficile à croire, à rentrer dedans, voilà, c'est tout un chemin. Certaines personnes sont l'objet d'une conversion soudaine et puis voilà, ils adhèrent très fortement et c'est pour eux vraiment une révélation, la résurrection. D'autres, ben, c'est un chemin beaucoup plus long. Je dirais...
On risque d'être un peu caricatural, oui. Du coup, résurrection, réincarnation...
Ah oui, non, alors c'est vraiment pas la même chose. La différence dans la foi chrétienne, c'est de croire en l'amour qui est plus fort que tout. Voilà, donc ça c'est un élément, je dirais, que nous dit la résurrection. Mais dans une perspective relationnelle et, je dirais, personnelle. C'est-à-dire que moi j'existe en tant que personne, Dieu existe en tant que tel, et je suis en relation avec Dieu. Voilà. Et ma personnalité en tant que telle, la résurrection dit que je subsiste après la mort en tant que personne dans ma relation à Dieu et aux autres. Voilà. La réincarnation, je me réincarne dans différents êtres au fil des temps jusqu'à un jour sortir de ce cycle en ayant le statut le plus élevé. Quoi. Voilà.
Alors ça, c'est pour la différence résurrection-réincarnation. Après, qu'est-ce que Laudato Si, qu'est-ce que votre livre nous invite à contempler, et puis les exercices donc, de Saint Ignace, c'est la résurrection Pour les chrétiens, c'est aussi la résurrection de la chair, c'est-à-dire que le Christ est réapparu en fait avec un corps, mais qui était différent. Donc la résurrection, c'est quoi ? C'est une promesse de vie éternelle, mais qui ressemblerait à quoi ?
Ah ben, ça c'est très difficile à décrire. C'est-à-dire, c'est des choses... c'est pour l'intelligence humaine une chose qui est extrêmement difficile à approcher. Et donc, on ne va pas pouvoir mettre deux mots de dire, ben voilà, après la mort, exactement comment ça se passe, on est dans tel lieu et tout ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de contempler ce qui est arrivé aux disciples après la mort du Christ. Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est de voir des disciples qui étaient complètement... dans l'effondrement total. On parle d'effondrement par rapport à l'écologie, mais ce qui est arrivé aux disciples, c'est un vrai, véritable effondrement. Ils étaient avec quelqu'un qui leur donnait vraiment une perspective d'arriver à bâtir un monde d'amour, une civilisation d'amour, comme disait Jean-Paul II, sans les armes, uniquement par l'amour, et une civilisation profondément humaine sans les armes. Bon, et il y avait vraiment un mouvement qui était extraordinaire. Et tout d'un coup, le Christ est arrêté, torturé, crucifié et mort. Et donc, c'est un effondrement total, absolument total pour eux. Et qu'est-ce qui se passe ? On les voit se mettre en route, être habités par la joie, avoir un dynamisme extraordinaire et le communiquer. Il y a quand même quelque chose qui s'est passé.
Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont vu ?
Et alors, le rappeler. Voilà, c'est ce que les évangiles donc, nous relatent.
Et puis vers quoi on tend tous quelque
voilà,
part ?
Voilà, ils ont rencontré, ils ont fait l'expérience d'une rencontre du Christ, de ce Jésus qu'ils ont connu. Ils font cette expérience qu'il est vivant après la mort. Voilà. Alors, d'une manière, les textes le racontent d'une manière un peu variée, différente. Il est insaisissable. Voilà, on va pas pouvoir scientifiquement dire qu'est-ce qui se passe. Mais ils font cette expérience extrêmement forte. Et donc, ça nous dit aujourd'hui qu'il y a une vie après la mort. Voilà. Quelle vie ? Comment elle se passe ? Je vais pas pouvoir le dire, mais il y a une vie. Et que les forces de mort qui s'étaient abattues sur le Christ n'ont pas eu raison de la vie, finalement, puisqu'ils en font cette expérience-là. Voilà.
Alors, dans ce dernier chapitre, en fait, il y a trois mouvements. C'est comme si vous nous invitiez donc à regarder, on va dire, l'horizon au-delà de la vie, qui est cette promesse donc, chrétienne. Et puis, après, à se rendre compte du découragement qui peut traverser profondément à l'issue de la lecture de Laudato Si ou de cette série d'émissions ou de votre ouvrage ou des retraites, bref, de faire face, comme je disais en introduction, à la réalité de la crise en cours pour goûter à une espérance, on va dire, plus ajustée. Et ça sera ce que nous donnera à entendre, entre autres, Didier Prudent à la fin de cette émission. Alors, en fait, un petit détour sur la dépression verte, je le disais en introduction, et c'est réel, en fait. Hein, y a des gens qui se mettent à déprimer, à développer des vrais troubles d'anxiété. Vous parlez aussi des collapsologues. On n'en a pas beaucoup parlé au long de cette année. Il y a un ouvrage très connu, on va dire, pour ceux qui s'intéressent un peu au sujet, « Comment tout peut s'effondrer » paru aux éditions du Seuil, c'était en 2015, de Pablo Servigne et Raphaël Stevens. On peut trouver des interviews dans la presse. C'est vrai que ça fait froid dans le dos parce que eux, leur postulat, c'est que notre civilisation en fait peut s'effondrer comme d'autres se sont effondrés dans l'histoire, c'est ça ?
Oui, quand on voit ce qui est en train de se passer, on peut en avoir peur. Effectivement, c'est quelque chose qui peut arriver. Ce qui est intéressant, c'est
si vous deviez les décrire un tout petit peu plus, ces collapsologues, pour ceux qui en sont pas familiers, en fait, c'est cet ouvrage que vous avez dans les mains, même si c'est une autre version.
Oui,
qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils pensent ?
C'est-à-dire une augmentation forte de la température parce qu'on n'arrive pas à se mettre en route suffisamment vite, et donc un dérèglement du climat, une augmentation du CO2 et des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, un dérèglement du climat, et donc une perturbation complète de tout notre système, je dirais, économique, toutes nos organisations sociales, de société, et donc beaucoup de chamboulements voilà, et donc énormément de gens qui vont souffrir. Quand on voit aujourd'hui ce que le virus du Covid a pu provoquer comme crise économique, sociale aujourd'hui, et on n'a pas fini d'en goûter si je peux parler ainsi, juste par ça, mais le climat, ce sera beaucoup plus que ça. Donc voilà, ça veut dire une élévation du niveau de mer, les gens qui perdent leurs champs qui sont au ras de l'eau, donc des énormément de gens, par exemple au Bangladesh, qui vont se retrouver dans les bidonvilles, des villes entières qui vont être sous l'eau. Enfin, c'est bon, on va pas, tout le monde entend ces choses-là. Donc c'est ça, je pense, qui vise. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez cité le premier livre, mais le deuxième livre, c'est Une autre fin du monde est possible, des mêmes auteurs. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous montre comment, dans cette perspective-là, en sachant que ces troubles peuvent arriver et peuvent être très forts, on peut vivre. Et on peut vivre en vivant le chemin qu'on a à vivre à travers ça. Voilà. Et de ne pas nous laisser complètement assommer et nous laisser déprimer par... Ce qui pourrait arriver à la fin. Voilà.
Voilà, ils ont des expressions. J'ai retrouvé une interview dans Good Planet, c'était de décembre 2020. La pandémie est un exemple de la théorie des dominos dans le cadre d'un effondrement global, disent-ils. Ils disent aussi que le sevrage pour notre société occidentale va être très dur, car tout le monde est drogué aux énergies fossiles. Et puis ils parlent en effet de l'avenir en parlant des 4 R. Alors ils adaptent, ils prennent ça d'un auteur qui s'appelle Jen Bedell, auteur d'un ouvrage intitulé Adaptation radicale, résilience, régénération, réconciliation et renoncement. Bref, c'est pas forcément le sujet, mais ça donne des pistes. Dans votre chapitre, Jérôme Gay, vous finissez en faisant rentrer quelque part la création dans cette promesse de la résurrection, puisque on a du mal, enfin on voit quelque part, hein, on peut porter du crédit de plus en plus, comme vous le disiez, à cette espèce d'effondrement, et donc voir la création qui part en vrille, pardon pour l'expression. Vous invitez donc à mettre la création à l'intérieur de la résurrection quelque part, et vous faites écho pour ça à Laudato Si. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que le pape nous dit sur ce sujet, c'est-à-dire en fait toute la création serait quelque part en chemin. Vous citez Irénée de Lyon et Duns Scott, qui laissent entendre, ils reconnaissent que la résurrection ne concerne pas uniquement l'être humain ou les créatures raisonnables et libres, mais l'ensemble de la création, et que toutes les créatures ont leur place à la résurrection.
En fait, ce que dit le pape, c'est que il nous invite à rentrer dans une relation vis-à-vis des éléments de la création, non pas utilitariste, mais d'émerveillement, et de considérer qu'elles ont, je dirais, leur vie en propre, qu'elles ont, voilà. Et donc, ça veut dire que je ne sais pas ce qu'avront devenir, évidemment, tous ces éléments de la création, toutes ces créatures, mais elles sont porteuses de quelque chose, d'un mouvement global qui n'est pas simplement d'être utile pour l'homme, quoi, voilà.
Qu'est-ce que ça change, en fait, de se dire ça? Je cite un autre passage, c'est le paragraphe 100 de Laudato aussi. Les créatures de ce monde ne se présentent plus à nous comme une réalité purement naturelle, parce que le ressuscité les enveloppe mystérieusement et les oriente vers un destin de plénitude. Le pape ajoute, même les fleurs des champs, les oiseaux, même les fleurs des champs et les oiseaux qu'émerveillés il a contemplés de ses yeux humains sont maintenant remplis de sa présence lumineuse. Ça, c'est le Christ.
Mais il y a quelque chose de mystérieux dans cette création, c'est-à-dire tout ce que vous citez, les fleurs, la beauté du monde, même s'il y a des choses dans la création qui sont terribles, mais cette beauté-là, cette gratuité-là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Et donc on est invité à être devant ce mystère-là, et je pense que...
Qui est comme une promesse de vie, en fait, c'est ça ?
D'une promesse de vie. Et dans notre clé de lecture de l'ensemble, c'est ce mouvement vers la vie dans lequel on est pris par la résurrection du Christ. Enfin, quand on contemple cette force de vie qui dépasse la mort, eh bien, elle nous emmène, nous, en tant qu'êtres humains, et on peut penser qu'elle emmène toute la création. Enfin, on a cette vision... que l'ensemble du vivant et va vers la vie d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour une fourmi, je ne sais pas, mais voilà, cet ensemble-là a un sens. Un sens, c'est-à-dire qu'une direction va vers quelque chose. Voilà. Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
L'appel de Laudato Si, 8e émission de notre grande série annuelle. On fait du rab après la fin de l'année Laudato Si qui s'est clos donc le 26 mai dernier. On a fait notre part à cette antenne avec cette émission et puis bien d'autres chroniques que vous avez dû suivre dans la matinale ou ailleurs. Avec vous Bénédicte Lamoureux comme à chaque fois pour ce dernier chapitre qui on va dire est comme une dernière lumière très puissante et qu'on espère tellement puissante qu'elle mette tout le monde en mouvement. Joie et espérance d'un monde renouvelé. Vous allez nous aider donc à, on va dire, à digérer ce que nous a dit Jérôme Gay. Je sais pas, peut-être, allez, commençons par une première réaction à ce qu'il a dit. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, Bénédicte ?
Bien sûr, on est effectivement dans la fin de la retraite, donc il a bien retracé tout le mouvement intérieur que le retraitant vit, c'est-à-dire il plonge d'abord dans cet amour de Dieu et ensuite il voit comment il a mal répondu à cet amour et qu'il quand même, il est complice même des faits négatifs, y compris sur la création, qui a donc un péché écologique. Puis il rencontre le Christ qui fait tout changer. Et la suite de la fin de la retraite, c'est vraiment être avec le Christ dans cette puissance de résurrection et de ressurgissement de la mort. Il y a une image qui me touche, moi, beaucoup, parce que je suis une fille d'agriculteur, dans la Bible, c'est le grain de blé. Le grain de blé, il nous dit dans l'Évangile qu'il faut mourir pour vivre. Mais on est bien là, dans cette histoire, en tout cas dans la vie humaine aussi, on fait tous des expériences de mort et de résurrection. Le grain de blé, il doit aller jusqu'à mourir. C'est-à-dire, il ne reste plus rien du tout du grain de blé. Il y a une conversion complète. Et c'est au cœur de cette mort. Et quand il est dans la terre, il y a des mois où on ne voit strictement rien.
C'est ce que vous avez vu chez votre père ?
Chez mon père, sur la terre.
Ce n'était pas des semences à faim, déjà, voilà, c'est une bonne nouvelle. Ça prouve qu'elle réensemencée.
Et le grain, il s'ouvre en deux et éclate de là un germe de vie. Voilà. Et il n'y a plus rien de l'ancien grain. Vous savez, je suis allée jusqu'à creuser pour aller voir s'il restait quelque chose de l'ancien grain. Eh bien non, il n'y reste rien. Donc on est appelé à ça, c'est-à-dire mourir vraiment à ce qui est puanteur chez nous, ce qui est mauvais, ce qui est péché en nous, et à laisser surgir par, avec le Christ, ressurgir de cette mort. Et on voit quand ça pousse, comment c'est tout petit, et qu'il faut résister à écraser aussi les germes qui poussent, et laisser pousser jusqu'à la moisson, jusqu'à l'abondance de cette moisson. Mais je ne sais pas si ça parle, mais en tout cas...
On espère. La grâce à demander aujourd'hui, éprouver la joie et la consolation, recevoir la force de vivre, ce à quoi le Seigneur nous appelle,
oui.
L'éclairer.
Être uni avec le Christ, c'est traverser avec lui tout ça. C'est-à-dire traverser la mort. Il a traversé la mort. Il a traversé l'adversité, la contradiction. Personne ne voulait de lui. Enfin, je veux dire, il était dans une révolution de l'amour qui était insupportable pour les juifs, pour les grands prêtres, etc., qui étaient là. Et nous avons à traverser nos faiblesses, notre monde cassé, nos fragilités, nos péchés écologiques. Et le pape nous invite à une écologie intégrale, c'est-à-dire que c'est aussi dans l'ordre de la pensée. Bien sûr, c'est du côté des actes sur la création, mais sur notre vie quotidienne et sur notre pensée, sur notre manière d'être. Tout est pris. Donc il s'agit de résister au négatif, résister au jugement. Et Dieu sait si nos jugements, ils nous cassent. Pour nous-mêmes et pour les autres. Résister à des courants négatifs pour développer la confiance, la bienveillance, l'action de grâce, l'émerveillement, la joie, la louange. Et donc regarder les autres, regarder la création avec un regard profondément positif venant de la part du Christ ressuscité.
Alors résister donc avec une force, on va dire, plus grande que nous. Vous voulez faire un détour, donc comme à chaque fois, vers quelques textes. Le premier que vous avez choisi, donc, c'est l'apparition donc du Christ ressuscité au bord du lac de Tibériade. On peut le trouver dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 21. Et vous arrêterez entre le verset 1 et 19. On ne va pas le lire. Vous pouvez peut-être redire ce qui se passe et puis sur quel passage vous souhaitez vous arrêter.
Ce qui m'intéresse beaucoup là, c'est que les disciples sont complètement désespérés. Jérôme en parlait tout à l'heure. Ils sont désespérés, ils ont perdu celui qui donnait la vie, qui ouvrait sur quelque chose de tellement plus vivant et qui donnait une telle révolution dans ce qu'ils avaient à vivre au quotidien, qu'ils sont désespérés.
Ils sont retournés au boulot comme avant, en fait, quelque part.
Ils sont retournés au boulot, ils retournent pêcher. Ils s'ennuient, donc Simon-Pierre finit par dire « bon, bah, moi, je vais aller pêcher comme d'hab », quoi. Et ils y vont, et évidemment, cette nuit, ils ne prennent rien, on est de nuit, ils ne prennent rien. Et voilà que le Christ surgit à l'aurore. Et voilà, il leur dit, est-ce que vous avez pêché? Ben non, on n'a rien du tout, on n'a pas de poisson, on n'a rien du tout.
Les enfants, vous n'avez pas de poisson, du
voilà.
Poisson.
Les enfants, c'est intéressant. Voilà. C'est notre père, c'est notre frère. Laissons-nous guider par lui. Et il nous dit, allez, pêche, vas-y, de nouveau. Retourne au lieu où tu n'as rien pêché pour redémarrer, ressurgir de la mort, recroire que c'est vivant. Recroire qu'il y a de l'espérance, recroire qu'il y a des poissons possibles, recroire que la vie peut surgir. Et c'est ça qui est intéressant dans ce chapitre. Puis ensuite, alors, il y a une abondance parce qu'ils ont fait confiance à cette parole. Voilà, ils ont fait confiance à ce Christ qui a traversé avant eux.
Après, c'est presque une pêche miraculeuse, c'est ça, c'est...
Oui, oui, c'est débordant.
Plein de gros poissons, d'ailleurs, il voilà, a dit, j'ai jamais ça, vu, c'est des gros, c'est, voilà. C'est pas des...
Et c'est là que ceux qui sont attachés au Seigneur le reconnaissent tout de suite. Immédiatement, c'est le Seigneur. Saint Jean, on voit bien, c'est lui qui a penché son épaule et sur la poitrine du Christ au moment de la Passion. Saint Pierre, qui sont très proches du Christ, ils reconnaissent tout de suite.
Alors, il y a aussi une promesse quelque part là-dedans. Je ne sais pas si c'est comme ça que la lecture que vous en faites, mais il y a quelque chose dans ce récit de l'apparition de Jésus au bord du lac de Tibériade. Derrière, ils prennent un petit déjeuner au bord du lac de Tibériade. Quand on est allé en Terre Sainte, c'est un lieu absolument extraordinairement beau.
Magnifique.
On peut imaginer que c'était quand même un moment qui ressemble presque à ce royaume que nous vendait Jérôme tout à l'heure.
C'est sûr, le texte nous fait part d'une liturgie eucharistique, on pourrait presque dire. C'est tout simple. C'est tout simple, on fait dorer du poisson sur une grille et on a un peu de pain. Et voilà. Et
mais en quel lieu et avec qui c'est...
Ben voilà, c'est avec ce Seigneur ressuscité. Et ils n'ont pas besoin qu'il s'explique. Ils savent que c'est lui. Ils savent que c'est lui. Et donc, ils goûtent cette présence. Et c'est ça qu'il faut qu'on retrouve pour nous aujourd'hui. C'est goûter cette présence de Dieu dans la création. Cet émerveillement sur des choses très simples. Le pape dit dans l'encyclique, à un moment donné, recevoir la caresse du vent comme une caresse de Dieu. Recevoir la beauté des fleurs, des papillons, de la pollinisation, de que sais-je, comme venant de Dieu, les rayons de la lumière, etc. C'est vraiment une conversion du regard. C'est rentrer dans quelque chose de positif et me laisser toucher par cette grâce et donc en vivre et me déployer parce que c'est heureux et c'est bon. C'est pas soupçonner d'emblée tout ce qui m'est donné, c'est le recevoir profondément et m'en pénétrer.
Pour finir, vous vouliez vous arrêter donc sur un passage donc cité dans ce chapitre. Jérôme Guay en a parlé un petit peu. Donc à la fin des exercices spirituels, si j'ai bien compris, donc exercice donc de Saint Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites, pour rappel. Bref, cette pédagogie de votre grande famille spirituelle, religieuse, Xavier et autres. Donc il y a un chapitre, si j'ai bien compris, ou une partie qui s'appelle Contemplation pour parvenir à l'amour. Alors, qu'est-ce que c'est et puis pourquoi vous vouliez finir par ça?
Parce que, en fait, c'est la récapitulation de tout l'ensemble de la retraite et des exercices spirituels en eux-mêmes. Parce que c'est reprendre tous les bienfaits reçus pendant cette retraite, y compris de voir quel est mon péché. Parce que c'est une vraie grâce que de voir où je pêche. Et donc, du coup, parce que je vais pouvoir y résister. Si j'y vois clair, je vais pouvoir y résister et me tourner profondément vers Dieu et ne pas perdre mes énergies à lutter contre quelque chose qui, finalement, va m'engloutir. Mais me tourner radicalement, comme dans les skis, là, hop, vraiment.
Alors là, c'est vrai qu'on a un certain nombre de rencontres qui nous reviennent en tête. Hein. On en avait déjà parlé la fois dernière, au long de cette émission. Alors, c'est sûr qu'on ne pouvait pas faire 10 émissions d'un coup, mais voilà, on a quand même touché du doigt les excès à l'autre bout de la planète.
Voilà, ces excès-là, non. Je dis non. Et du coup, je me place autrement. Je change de positionnement. Et donc là, il dit « demander ce que je veux », c'est-à-dire demander la connaissance intérieure de tout ce que j'ai reçu dans cette retraite, dans ma vie aussi, hein, et le reconnaissant pleinement, que je puisse en tout davantage aimer et servir mon Seigneur, le Christ, avec qui je suis nouvellement unie, ressuscitée, désirant avec lui me laisser entraîner par ce courant de vie plus fort que la mort. Et lui, il est le premier-né de ceux qui nous tirent en avant.
Jérôme Guy, peut-être le mot de la fin, si ça vous va, pour faire écho donc à cette fin de retraite ignatienne classique et puis au regard de votre ouvrage.
C'est parce que je reçois le fait d'être aimé que j'ai envie d'aimer très profondément, et c'est le mouvement de cette contemplation. Et puis, je dirais, qu'est-ce qui me permet aujourd'hui d'entrer dans l'action ? C'est l'espérance. Voilà. Si vraiment je suis habité très profondément par une espérance fondamentale qui n'est pas juste un espoir d'une chose, mais vraiment cette espérance, cette foi très profonde que l'humanité a un sens, qu'elle va vers quelque chose et qu'elle va vers l'amour, alors je peux me mettre en mouvement, m'engager et croire et poser des actes qui sont en cohérence avec cette espérance.
Et ben je finirai aussi en citant brièvement Pablo Servigne et Raphaël Stevens, donc qui sont les co-auteurs de cet ouvrage dont on a parlé, Comment tout peut s'effondrer, donc figure de la collapsologie. On peut trouver dans une interview, en l'occurrence c'est toujours cette même interview de décembre 2020 dans Good Planet, il disait la chose suivante: pour passer à l'action, il faut du courage, et ces derniers proviennent surtout de nos liens sociaux, de l'entourage psycho-affectif, de l'amour qu'on reçoit et qu'on donne. Preuve que c'est une conviction qui peut être largement partagée, même si peut-être il n'y a pas la perspective aussi puissante de la résurrection. On va faire une deuxième pause et puis on va retrouver Didier Prudon que l'on va pouvoir joindre et qui peut se rendre disponible en cette fin d'émission. Et à la fin de la retraite, on donnera une date on donnera une date de retraite pour cet été, pour ceux qui voudraient vivre à plein ce parcours spirituel pour une conversion écologique, paru aux éditions Vie Chrétienne.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
L'appel de Laudato aussi, c'est pour rappel, l'émission, le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, pour ceux qui par hasard nous rejoindraient. Ce matin, nous sommes avec Jérôme Gay, religieux jésuite, Bénédicte Lamoureux, religieuse Xavier, directrice des Coteaux Pays, ces centres jésuites dans le sud-ouest. Et donc avec vous, Didier Prudon, vous nous rejoignez à la fin de cette émission. Vous êtes donc notre témoin du jour et vous êtes entre autres aussi l'auteur d'un ouvrage intitulé « Comment réussir sa transition vers l'écologie, point d'interrogation, paru aux éditions Imagine un colibri. Bonjour.
Bonjour, bonjour Emmanuel, bonjour Bénédicte et Jérôme et à tous les auditeurs.
Merci d'avoir pris du temps, donc vous nous rejoignez en cette fin d'émission parce que vous êtes au boulot, tout simplement. Vous prenez du temps et on vous en remercie beaucoup. L'appel de Laudato aussi, donc pour vous, ça résonne particulièrement puisque vous avez été entre autres donc chroniqueur d'une émission aussi sur Radio Présence, coproducteur d'une émission qui s'appelait Vers une écologie intégrale, qui a été diffusée, je crois, sauf erreur de ma part, toute l'année dernière. Avec vous ce matin, donc, vous êtes notre témoin du jour un peu pour cette émission de conclusion où, à entendre Jérôme Gay et Bénédicte Lamoureux, il faut arriver à avoir une espérance au cœur plus que des convictions. Alors si on commence par le début, on s'est dit donc avec vous qu'on allait faire prise de conscience, découragement et espérance. Quelle est votre espérance aujourd'hui ? Pour vous, la prise de conscience, Didier Prudon, vous la situez, semble-t-il, autour des années 2010. En tout cas, là, vous avez décidé un peu d'accélérer, si je puis dire.
Oui, tout à fait. J'aime bien dire que c'est un processus, que la conversion écologique est un processus. Et moi, dès mon enfance, j'avais une sensibilité particulière sur ces sujets. J'ai eu ensuite le désir de créer un centre de formation, comme je dis, pour le respect de l'humain et de la nature. Et puis, les actions avec le CCFD m'ont bien sensibilisé à l'importance de faire un potager et un poulailler. Et donc, oui, en effet, en 2010, j'ai découvert que le sol qui était près de chez moi, dans des champs, était mort.
Alors ça veut dire quoi, était mort ? Vous m'avez dit ça en préparant l'émission. C'est-à-dire, vous êtes levé un matin pour aller faire une carotte du champ du voisin d'en face, c'est ça ?
Non. En fait, je me baladais en regardant sur un chemin et en regardant le sol, je me suis dit, mais il est très bizarre ce sol. Il me semble complètement sec, complètement il était gris et je j'ai pas fait de carottes. Hein, c'était plus une question de sensation. Pour moi, il n'y avait pas de vie dans cet endroit-là.
Alors, ça a été votre prise de conscience, donc le moment où vous avez dit « il faut que je fasse quelque chose, il faut que je me mette en route ». Pour vous, donc, s'en est suivi donc, la lecture de l'encyclique du pape François, et puis après, vous vous êtes mis en fait à rencontrer un certain nombre de personnes, et au final, ça a donné donc cet ouvrage « Comment réussir sa transition vers l'écologie ». Juste, Didier Prudon, avant qu'on passe à votre engagement et peut-être à une phase de découragement que vous avez pu connaître, vous dites que vous avez toujours une sensibilité écologique, ça veut dire que pour vous, c'est une question importante, voire une question grave ?
C'est une question importante, tout à fait. Après, en effet, avant de se mettre en action, il s'est passé du temps. Il y a aussi l'importance de rencontrer des personnes. Mais le respect de l'humain et de la nature, c'était quelque chose de très important pour moi. Et il y avait autour de moi des agriculteurs bio, des personnes que je pouvais rencontrer, des amis, qui m'ont fait approfondir ce qui était au départ une sensibilité. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me former à l'agroécologie, puis à la permaculture.
Alors, vous êtes mis en mouvement, vous venez de le dire, il y a eu donc ces émissions, ce livre dont j'ai parlé, des conférences, une proposition même de lecture de Laudato aussi sur votre diocèse, hein, qui est le diocèse d'Auch. Et puis, ça prenait pas tant que ça, c'est ça ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce à quoi vous avez dû faire face ?
En fait, je me suis rendu compte que dans les conférences, on rencontrait souvent les mêmes personnes. Donc des personnes aussi qu'on retrouve sur tous les sujets, qui sont des fervents pratiquants, je dirais, et qui s'intéressent à tous les sujets et les propositions de l'Église. Aussi, suite aux émissions, bah, c'est vrai que peu d'écho, peu de retour. Alors ça ne veut pas dire que ça ne travaille pas dans les cœurs, mais c'est pas facile, c'est pas pour moi facile de mesurer l'efficacité, on va dire, de tout ce travail. Et donc, c'est, pour moi, ça m'a amené à me remettre en question en disant, mais qu'est-ce que je peux faire de plus juste encore que ce que j'ai pu faire ? Est-ce que... Là aussi, c'est un peu un processus. Au départ, j'aurais pensé que j'allais faire des émissions à la radio sur ce sujet-là. L'écriture du livre et amené à me solliciter. Mais en même temps, toujours, je me pose cette question toujours de qu'est-ce que je peux faire de plus juste encore aujourd'hui. Voilà. Donc il y a eu un peu de découragement, je ne le cache pas, mais maintenant, enfin, avec toujours l'idée de rebondir et de trouver de nouvelles solutions, de nouvelles propositions.
Alors le découragement, semble-t-il, c'est en tout cas ce que vous m'avez dit, c'est que il est venu plutôt du côté du constat de la difficulté des chrétiens à se mobiliser sur ce sujet, au regard même de ce que vous aviez vu ou des personnes que vous rencontriez dans la société civile, pas forcément chrétienne, qui elles sont à fond, si je puis dire.
Oui, c'est vrai que l'encyclique arrive en 2015, il me semble. Et je veux dire, il y a des personnes qui sont engagées dans l'écologie, dans la société civile depuis très 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 longtemps, depuis des dizaines d'années. Donc le monde catholique, je pense, a découvert ou a compris l'importance, grâce à Laudato si, l'importance de se mobiliser. Mais ça fait, en effet, les personnes que j'ai commencé, ma démarche a commencé avant la lecture de Laudato si.
Est-ce qu'au regard de la gravité de la situation et de l'enjeu de civilisation que c'est, alors là, c'est les mots ou presque de ceux du pape François, pour vous, il y a quoi en fait ? Les chrétiens ne se rendent pas compte qu'on va dans le mur, c'est ça ?
Alors oui, moi j'ai l'impression que ce sujet-là n'est pas encore... Enfin, beaucoup de personnes n'ont pas encore compris l'importance, mais que ce soit, on va dire, les chrétiens, mais aussi les représentants de l'État, par exemple, qui, pour moi, agissent au minimum de ce qu'ils peuvent faire alors qu'on est dans une situation grave, qu'on devrait, changer beaucoup de choses.
Alors, vous avez fait face, donc vous avez eu cette longue prise de conscience. On sent que chez vous, la genèse est, voilà, la genèse remonte à très loin. De multiples engagements. Vous êtes modeste, mais vous avez payé de votre personne. Alors aujourd'hui, fort de tout ça, en fait, à vous entendre, vous avez un peu adapté votre manière d'agir. Vous étiez avant, d'une certaine manière, comme un militant. Aujourd'hui, comment vous vous définiriez, comment vous essayez de vivre ça après un peu de ces déconvenues ?
Alors, la première chose qui me vient, c'est d'être dans l'émerveillement. L'émerveillement de la nature. J'ai la chance de vivre dans un lieu qui est très beau, beaucoup entretenu par mon épouse. Hein. On a un jardin qui est magnifique, que ce soit le potager ou le jardin d'agrément. Et donc, c'est une source d'émerveillement. Et voir que nos gestes portent des fruits, ça, c'est quelque chose qui me nourrit énormément. Et puis, c'est voir toutes les initiatives nombreuses qui sont lancées. Donc ça aussi, c'est une source d'émerveillement.
Comment vous... Pardon, allez-y, finissez, je vous en prie.
Oui. Et là, je peux citer aussi bien la proposition Terre d'Espérance qui a été initiée par les évêques, tout ce qui se fait au niveau sur Toulouse avec la commission pour l'écologie, mais aussi localement, autour d'une association, d'un collectif qui s'est créé autour de l'écologie et puis de voir comment on peut vivre différemment dans l'avenir, qui s'appelle Climat Savès. et où là les actions sont simples pour, c'est, dans notre participation, donc c'est aussi participer à ces propositions, ramasser des déchets, planter des arbres. Et également, un élément qui est important pour moi, c'est être dans l'amitié sociale. Donc je disais être dans l'émerveillement, être dans la participation et être dans l'amitié sociale. Et en particulier
c'est quoi,
avec un collectif.
C'est quoi l'amitié sociale juste donc vous dites dans ce collectif Maïs Population donc, auquel vous participez, mais qu'est-ce que vous entendez par amitié sociale?
Alors l'amitié sociale, c'est au départ on se connaît pas, on commence par se rencontrer. Il y a un projet sur lequel qui nous mobilise, et puis on se rend compte que ça devient une aventure humaine. Une aventure humaine où on va essayer de construire ensemble. On n'a peut-être pas tous les mêmes préoccupations. Dans ce collectif, il y a des agriculteurs, il y a des gardiens de semences, comme nous pouvons l'être. Il y a un brasseur, il y a un boulanger, etc. Toutes ces personnes ont des contraintes différentes, donc il faut rentrer dans un dialogue. Et puis vivre des temps de convivialité qui vont nous permettre de mieux se connaître. C'est à partir du maïs, ça va être faire réaliser des recettes de gâteaux, de desserts, et puis on va les goûter ensemble.
Voilà, on peut dire aussi que
exemples dans le vécu.
Ce collectif Maïs Population aussi milite donc à redécouvrir des semences de maïs qui sont adaptées au territoire. Le fond de cette émission et de cette dernière série d'émissions, c'est donc d'essayer de voir au-delà de la gravité de la crise et du découragement qui peut prendre tout à chacun face à peut-être à la difficulté que l'on a à se mettre réellement en mouvement, essayer de voir comment cultiver l'espérance. Donc pour rappel, vous dites que vous êtes passé en fait, ou votre ambition aujourd'hui c'est passer du faire à l'être. Pour finir, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par là?
Alors pour moi, l'écologie en fait c'est l'amour du vivant. Du vivant avec un petit V et un grand V. Alors, aimer, alors on peut poser des gestes, et c'est très important, mais c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. En s'émerveillant de la beauté qui nous entoure, ben ça, quelque part, ça provoque une transformation intérieure, en posant un regard sur un animal qui est en souffrance, une plante qui est en souffrance, mais aussi un voisin, peut-être, surtout dans cette période, eh ben, trouver un geste d'amour simple, pour relever, pour soigner, pour voilà. Les mots que j'aime bien, c'est s'aimer et semer. Il faut s'aimer et semer.
Voilà, mais vous voulez dire que du coup, en fait, quelque part, la fine pointe de la transition écologique, c'est quoi? C'est une transformation intérieure?
Oui, c'est une transformation de l'intérieur. S'émerveiller de la vie et servir le vivant. Vivant avec un petit V, vivant avec un grand V.
Eh ben merci beaucoup Didier Prudon d'avoir clos cette grande série annuelle d'émissions, donc motivée par l'année Laudato Si, qui a touché à son terme le 26 mai dernier, si je ne me trompe pas. Merci d'avoir fermé le bal, et puis c'était une bonne manière de rendre hommage aussi au travail de fond que vous avez fait pour Radio Présence avec cette série d'émissions vers une écologie intégrale que vous avez fait avec Alexandre Ribeyron. Je rappelle le titre de votre livre, Comment réussir sa transition vers l'écologie ? Paru aux éditions Imagine un colibri. Et le livre qui nous a servi tout au long de cette année, coécrit donc par Jérôme Gay, jésuite présent donc à ce plateau et tout au long de l'année, avec qui on a construit cette série d'émissions. Votre livre, Jérôme Gay, s'intitule « Parcours spirituel pour une conversion écologique », paru aux éditions Vie chrétienne. On pourra finir également cette émission en faisant écho à quelques retraites qui seront données cet été à partir de votre ouvrage que l'on vient de citer. Une retraite au Châtelard, c'est en région lyonnaise, du 13 au 19 juillet, donc sur Laudato Si, en revivant ce parcours que l'on a fait vivre au long de cette année. Toutes les informations sur les retraites données par la famille ignatienne en lien avec Laudato Si sont à retrouver sur Notre-Dame du Web, un site internet www.ndweb.org. Un grand merci à la technique Christophe Aubry. Vous pouvez écouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00. ou par mail à contact@radioprésence.com.